Alors, salut Alison. T'as amené à l'écouter Moira? Non, hein. Bon, c'est pas grave, je vais aller au centre. Ah, bon, bah super. Bon, bah alors d'abord, Shana Tova, ou Mivu Rechet, Gmar Khatima Tova, Ptika Tova. Alors, ça, je pense que vous ne connaissez pas ça. Donc, on va déjà vous dire ce que c'est, Ptika Tova. C'est quoi? Un petit. Le petit cas, c'est le pétec. Qu'on ait tous un bon pétec. C'est quoi ce pétec? C'est que. Maintenant, on est entre Rosh Hashanah et. Entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, on est un peu dans le jugement. Et on sent un petit peu comme ça cette avira de. On veut l'arzor bitchouva et tout ça. Dès que Kippour sort, d'accord? On rentre dans un, jusqu'à la fin de Sukkot, et il y en a même qui disent jusqu'à même en réalité Hanouka, on rentre dans une ambiance de miséricorde. Et en fait, il faut savoir que Bezrat Hashem à Hoshana Rabba, d'accord, donc le dernier soir de Sukkot, d'accord, à la fin de Sukkot, alors Bezrat Hashem, on va à Kadosh Baruch Hu en réalité, merci, vous pouvez boire aussi si vous voulez, pour nous deux. Si Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il va tamponner, d'accord, ça veut dire tout ce qui a été décidé entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas là. On va avoir le pétek, d'accord, Bezrat Hashem, à Hoshana Rabba. Pour ça que
tout peut changer.
Tout peut changer encore. Et c'est pour ça que à Hoshana Rabba, c'est très très important, c'est le dernier soir, d'accord? C'est très important d'essayer Bémet, de faire des Teilim, de... Alors, pour toi Naomi, qui aime bien les... Donc juste là, tu peux pas te lâcher encore. Tu dois attendre le dernier jour de Sukkot pour te lâcher. Après, bon, on va te dire, tu peux un peu lâcher là.
Et par rapport à Simchat Torah,
oui, c'est Hoshana Rabba Simchat Torah chez nous, d'accord, c'est là, tout se passe. Ce dernier soir, ça veut dire, on va, Bezrat Hashem, on se renforce beaucoup dans la Tfila, dans l'Aïd Bodedout, dans les Teilim, et ça veut dire, c'est ce moment-là où vraiment on va avoir un Kesher avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment aussi, d'accord, où il faut beaucoup se remplir de Simcha, parce que c'est en réalité... Toute cette période de Sukkot maintenant qui va arriver, ça va être le plein de Simcha, d'accord, et de Emouna qu'on va faire pour tout le reste de l'année. Alors, donc, Sukkot, c'est une fête où il n'y a que de la miséricorde. Mama Shakadosh Baruch Hu, il est très très miséricordieux. Et c'est aussi un moment où Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des choses très spéciales qu'on ne peut pas recevoir tout au long de l'année. D'abord, c'est quoi la soukha? Il faut comprendre que la soukha, c'est pas juste une cabane, d'accord, où tu dis, ben voilà, la soukha, ça va être ta maison. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ta soukha comme si c'était vraiment ta maison. Vis dedans. Pas seulement tu descends pour, tu vas pour manger et puis c'est fini. Tu manges là-bas, tu parles là-bas, tu étudies là-bas, tu peux même faire la sieste là-bas, tu peux dormir là-bas. Attends, on va y arriver. Donc, tout ce que tu peux faire dans la soukha, tu dois le faire. La soukha, ce n'est pas uniquement, d'accord, pour dire on va prendre les repas. Pour ceux qui n'ont pas le mérite encore d'avoir une soukha, bah, priez déjà pour en avoir. D'accord? Il faut prier, Bémet, pour avoir une soukha, pour que Bezrat Hashem, on puisse bénéficier de ça. Et si vous n'en avez pas, alors arrangez-vous avec une copine, avec une voisine, pour essayer de vous dire, d'abord vous lui dites, c'est quoi, j'ai envie de participer à ta soukha, viens je t'aide après à faire des machins, et puis arrangez-vous pour essayer de pouvoir être dans la soukha chez elle, d'accord? La soukha c'est une maison pour tout le monde, donc on peut rentrer et sortir, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc dans la soukha, les filles, il faut comprendre, et ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut bien bien intérioriser, il n'y a pas plus kadosh qu'une soukha. Prends une synagogue, la plus belle des synagogues, la plus grande des yeshivas, ça n'arrivera pas à la gdusha, à la sainteté d'une soukha. Donc comprenez que quand vous rentrez dans une soukha, c'est Waouh, je rentre. Ça veut dire comme si tu rentres dans le Kodesh à Kodashim. Tu rentres dans un endroit très, 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 très kadosh. C'est très précieux, une souka. Et donc, qu'est-ce que tu comprends par là? Que Hachem, c'est comme si je te dis, il est en concentré dans ta souka. Ce que tu vas recevoir dans ta souka, tu peux pas le recevoir en dehors de l'année. Il y a ce qu'on appelle dans la souka, d'accord, un ruach makif, ça veut dire il y a comme si qu'il y avait une intelligence extérieure qui peut pas pénétrer ton cerveau. Il y a une intelligence extérieure qui est donc l'intelligence d'Hachem qui entoure, d'accord, ton esprit quand tu es dans la souka, qui est dans la souka en permanence. Donc déjà, de là, on comprend une chose, que de la même manière que dans une synagogue, alors je vais à l'extrême, après chacun fera ce qu'il voudra, bien sûr, mais je suis obligée de vous le dire, pour pas qu'on me dise, oh, tu ne nous as pas prévenu. De la même manière que tu ne peux pas rentrer dans ta synagogue habillée comme tu veux, tu fais un minimum d'effort quand tu vas à la Sina, donc dis-toi que là, c'est un concentré, c'est encore plus que la Sina. Donc tu ne peux pas rentrer habillée comme tu veux dans ta souka. Tu abîmes la souka, tu abîmes la sainteté de ta souka. Donc, même si tu as l'habitude de t'habiller avec des manches courtes ou des choses comme ça, tu sais qu'est-ce que tu fais? Facile, d'accord? Tu te mets une petite truc à l'entrée de la souka, une petite veste, un petit quelque chose. Tu dis ça, c'est quand je rentre, hop, tu vois? T'as qu'à prendre un pareo si tu mets des mini-jupes ou des pantalons. Tu dis, un petit pareo, hop, je m'entoure en bas. Comme ça, au moins, je suis tsniout dans ma souka. Tu n'atteins pas la gdoucha de la souka. Pareil, dans la souka, tu ne peux pas te permettre de parler n'importe quoi.
Comme dans une synagogue.
Plus que dans la synagogue.
Pourquoi elle est plus kadosh que la synagogue?
Parce que dans la souka, tu as c'est un concentré d'Hachem, en fait, la souka. D'accord? C'est un concentré d'Akadosh Baruch Hu qui est matérialisé par une souka. D'accord? Mais c'est un concentré mamash. Donc, dans la souka, tu vas pas commencer à parler des gros mots. Tu peux pas. D'accord? Il faut le dire aux enfants, il faut vous le dire à vous-même, à vos maris, leur dire, écoute, chérie, on va faire un effort, d'accord? La souka, c'est très kadosh, donc on va essayer de pas dire des gros mots. On va essayer, d'accord, de pas parler de n'importe quoi dans la souka. Imagine, tu es devant Hachem, tu vas commencer à dire n'importe quoi, tu peux pas. Donc, la souka, il faut te dire, je suis à la Sina, je suis dans le Kodesh à Kodashim, je suis dans le Beth Amikdash. Donc c'est sûr que tu te tiens un petit peu à carreau parce que tu ressens véritablement la présence, d'accord, d'Hachem. Donc ça c'est, et bien évidemment que la souka, la mitzvah de la souka, d'accord, c'est que on va, tout ce qu'on peut recevoir comme achnasat orchim, comme invité, d'accord, dans la souka, on le fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas honte si vous n'avez pas de souka, de dire à votre copine, écoute, je viens manger chez toi dans ta souka. Au contraire, ça veut dire, tu lui rends service à ta copine quand tu lui dis, ta souka va être ma maison. C'est comme si que, tu sais quoi, on est, tu vois, dans la Shnat Shmita, nos jardins, ça devient Efker, ça veut dire, ça devient tout le monde, d'accord? Eh bien, c'est pareil. La souka, c'est la maison de tout le monde. Tous les soirs de Soukhot, on va recevoir des invités. D'accord? Ça veut dire on a Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. D'accord? Jusqu'à David, Moshe, Aaron. Chaque soir, c'est quoi chaque soir? Ça veut dire à partir de Shkia, d'accord? C'est le nouveau jour qui va rentrer. Donc, chaque soir, c'est un nouvel invité qui est là pour la soirée jusqu'au lendemain, avant Shkia. Profitez, d'accord, de demander à vos invités d'honneur de pouvoir prendre de leur midot. Par exemple, Avraham Avinu, d'accord? Avraham Avinu, on le sait, ça a été quoi sa spécificité à Avraham Avinu? C'était l'Achnasat Orchim. D'ailleurs, souvent on dit, le juif, il sait recevoir et on aime faire l'Achnasat Orchim. Surtout, ne nous envolons pas, c'est pas nous. Nous, c'est juste qu'on récolte en réalité, d'accord? Le Messirut Nefesh qu'Avraham Avinu, il a fait, tout au long de sa vie, mais à un moment spécifique lequel? Quand il a reçu, d'accord, ses trois invités, à quel moment? Ça veut dire après la Brit Mila. Il était, mais quoi? C'est comme si je te dis, tu sais quoi, t'as fait une opération, t'es très mal ou quoi? Et maintenant, où tu viens d'accoucher, tu viens d'avoir le bébé dans les bras, on te dit, allez, ce soir, la fête. Tiens, pendant que je me dis ça, je me dis, ouais, ça me rappelle. Chez les Tunisiens, t'as pas eu le temps d'accoucher que déjà tu te prends tu fais le zohar, après la bride, après t'as pas fini encore que tu te prends la tellette lila. Bon bref, t'es crevé. Mais imagine, tu viens d'accoucher, on te dit ce soir tu reçois, je sais pas, du monde. T'as dit, mais attends, c'est pas possible. C'est exactement ça. Avraham Avinu, il était au summum de la douleur, au summum de la fatigue. Il avait 100 ans, n'oubliez pas. Et il a pris sur lui et il a invité des gens. Et pas seulement il les a invités, il a été les chercher, il leur a fait, ils ont fait. Ça veut dire, il a fait quelque chose. Avraham Avinu, il a semé, d'accord, cette graine qui s'appelle l'Achnasat Torim. Et aujourd'hui, nous, on en profite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on reçoit du monde et qu'on arrive à recevoir du monde, d'accord, ben, dis-toi que ce n'est pas naturel. Ça, c'est le Messirut Nefesh qu'Avraham Avinu, il a fait et qu'aujourd'hui, nous, on récolte ça. D'accord. Donc, chaque soir, quand on va recevoir Bezrat Hashem, l'invité, on demande à l'invité, on lui dit, Bémet, donne-moi le mérite d'avoir un petit peu de ces midot. Et tu demandes, d'accord, tu te mets en connexion avec l'invité, ça veut dire parce que l'invité, il vient et il va t'offrir plein de choses. Alors, bien évidemment que si tu n'es pas là, d'accord, ou que si tu parles de tout et n'importe quoi et que tu ne t'occupes pas de tout ça, c'est dommage, tu vas passer à côté. Donc, tous ces moments, d'accord, de Soukhot, ils sont très, très, très importants. De Mina Shamaim, cette année, Hachem, il veut qu'on reste dans nos Soukhot, vous voyez, par force. Donc, c'est très bien, merci. On essaye de rester le maximum sans dire ben, on va se balader à droite, à gauche, et la Soukha, elle reste toute seule. C'est dommage, vous allez perdre beaucoup de choses. Ça, c'est d'accord par rapport à Soukha. Donc, bien sûr qu'on a dit qu'on ne peut pas parler n'importe quoi, on ne peut pas entendre n'importe quoi. Et on essaye vraiment d'étudier la Torah. Et celles qui ont bémette, même les femmes, prenez des livres et étudiez. Vous allez voir que tout ce que vous n'avez pas compris tout au long de l'année, vous allez le comprendre dans la Soukha. Pourquoi ? Parce que, justement, ici, il te dit comme ça. Il te dit que dans la Soukha, il y a, d'accord, un Ruach Makif. Ça veut dire qu'il y a une intelligence extérieure. Une intelligence extérieure qui est en réalité, j'ai envie de te dire, une intelligence que Dieu seul peut te donner, mais qu'il peut te donner que pendant Soukhot. À l'intérieur de Soukhot, d'accord, il y a donc un esprit, il y a une intelligence divine que tu ne peux pas accéder, tu ne peux avoir que pendant Soukhot et dans la Soukha. Ça veut dire qu'à Soukhot, tu vas pouvoir arriver à certaines compréhensions, tu vas réussir à pouvoir presque attraper l'esprit divin que tu ne peux pas avoir en dehors de Soukhot. C'est pour ça que Yahen Yan, d'accord, Soukhot, de rester le maximum et de dire on prend des livres en famille, on étudie, ou même seul, ou des choses comme ça. Il te dit comme ça, la Soukha, hein, l'esprit de sainteté ou l'abondance divine dont nous avons parlé, relève du niveau donc du Ruach HaMakif. Il s'agit en effet d'une connaissance tellement élevée qu'elle est inaccessible au cerveau humain. C'est quoi en réalité cette connaissance ? C'est une connaissance divine. C'est-à-dire que l'esprit humain, il est quand même limité. Il y a un moment où tu ne peux pas accéder. À Soukhot, Akadosh Baruch Hu va te donner quelque chose. D'accord ? Il va te donner justement une intelligence qui ne peut pas être attrapée en temps normal. Et il te dit comme ça que ces sphères transcendantes ne pénètrent pas le cerveau. Ça veut dire quoi ? Elles ne font que t'entourer. D'accord ? Ça veut dire il y a une intelligence comme ça divine qui t'entoure, ok ? Et que si maintenant, justement, pendant Soukhot, tu essayes véritablement, d'accord, de te connecter à travers la Hitbo des doutes et tout ça, alors tu vas voir que tu vas attraper certaines choses. Et il te dit comme ça, donc ces pensées sont tellement profondes que le cerveau humain n'est pas en mesure de les comprendre parfaitement. Et il te dit comme ça, il en est ainsi pour de nombreux énigmes de la connaissance auxquelles nous nous heurtons, comme par exemple le paradoxe de la connaissance du libre-arbitre, que l'esprit humain n'est pas apte à comprendre. Ron, quand maintenant tu essayes de comprendre c'est quoi le libre-arbitre, Personne n'a réussi encore, Bémet, à comprendre. C'est très compliqué, vous voyez. On essaye à chaque fois de doucement. Mais c'est très compliqué. On n'arrive pas à comprendre. Donc, il te dit que cette intelligence relève d'une dimension qui entoure, en ce sens qu'elle ne pénètre pas l'intérieur du cerveau, mais l'enveloppe à l'extérieur. L'intelligence intérieure, contenue dans le cerveau, reçoit cependant sa vitalité précisément de cette sphère transcendante, de cette intelligence qui l'entoure. Ça veut dire que tout ce que toi, tu as comme intelligence, d'accord ? Alors, tu peux l'avoir par rapport à, on va dire, les livres, les machins, ça, c'est de la connaissance, mais il y a un Ruach Eloki, d'accord ? Qui entoure, qui t'entoure et qui fait que tu peux percevoir certaines choses, mais tu ne peux pas l'intérioriser. Après, ici, il te dit comme ça. De plus, sache qu'il est question ici de l'essence de la puissance du libre arbitre. Parce que si Bémet, on arrivait tous à comprendre l'histoire du libre arbitre, et bien là, c'est Bachiar. C'est facile. D'accord ? Parce que si tu arrives à comprendre qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors ça veut dire que tu as pénétré en réalité dans une enceinte, d'accord, du palais d'Hachem, qui fait qu'il n'y a plus le bien et le mal. Le bien et le mal, ils n'existent plus. Il n'y a que du bien, puisque tu es rentré quelque part dans un esprit divin. La condition de l'existence du libre arbitre en dépend. Il durera aussi longtemps que l'intelligence n'aura pas progressé suffisamment pour comprendre l'énigme que représentent la connaissance et le libre arbitre. Donc le libre arbitre, il est là quand, en fait, d'accord ? Plus, moins tu es rentré, on va dire, moins tu t'es inclus dans Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas avoir cette notion du libre arbitre qui va un peu te bloquer. D'accord ?
C'est ce que tu nous disais quand nos paroles, c'est Hachem, nos pas, c'est Hachem, nos pensées, c'est Hachem.
Ouais.
Auto-davar, d'accord ?
C'est auto-davar.
Il y a pas de libre arbitre et tout, mais
non, j'ai pas dit qu'il y a pas.
Tout est pour le bien, mais comment on fait, pour moi, le problème du libre arbitre, c'était savoir jusqu'où je dois agir et jusqu'où je dois lâcher.
C'est ça.
Curseur, quoi.
C'est ça en fait le Inyan. Ça veut dire que si tu pénètres, si tu arrives, d'accord, à pénétrer dans, d'accord, dans, on va dire, à faire un tzimtzum de toi-même. Si tu existes moins pour laisser plus à Kadosh Baruch Hu, même ta question, elle n'existe plus. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu vis n'est que du bien. Tu comprends ce que je veux te dire ? Le bien et le mal commencent à partir du moment où tu as un manque d'Hachem en toi. Plus tu as un manque d'Hachem en toi, et plus la notion du mal, elle est énorme.
Mais est-ce que
tu comprends ?
Finalement, le libre arbitre, c'est...
Bon, je sais pas, hein, je découvre, hein, je l'ai découvert en rentrant.
C'est pas finalement d'accepter de se dire que tout est HM.
Ouais.
Oui, dans cette voie-là.
Oui.
Alors, tu fais rien.
Non.
Mais là, le problème.
Non, mais.
Je suis pas à ce niveau, donc je fais, oui ou non.
Oui, donc on est tout le temps dans le positif, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est bien.
Ça veut dire, regarde.
Hein, tu fais plus, enfin, tu penses plus que tu fais mal.
Voilà.
Non, puisque le mal n'existe pas. Mais ça, tu peux pas y arriver comme ça, Michel. Ah,
c'est vrai. Mais tu te dis que je suis pas arrivée à ça.
Amen, je te le souhaite. Mais Michel, Michel, si on était arrivé à ça, on serait même pas en train de discuter. Tu comprends ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas, oui, parce que la question ne se poserait pas.
Regarde ce qu'il te dit ici. Il te dit comme ça. Regarde, il te dit que je reprends. Il durera aussi longtemps que l'intelligence n'aura pas progressé suffisamment pour comprendre l'énigme que représente la connaissance et le libre arbitre, car l'homme garde ainsi la possibilité de choisir la vie ou son contraire. En fait, le libre arbitre, d'accord ? Tant que tu as ce libre arbitre qui vient entre guillemets te pourrir ta vie, d'accord ? T'es toujours là en train de dire je fais bien, je fais mal, je fais mal, je fais bien, ta ta ta. Et donc, tu es dans l'angoisse perpétuelle. Parce que tu es toujours plus dans ta tête, dans le mal que dans le bien. D'accord ? Donc, tant que justement tu n'as pas réussi à percer cette histoire, ok ? Eh bien, tu es tout le temps en train de te torturer l'esprit en fin de compte. C'est une torture que tu te fais dans ton esprit. Il te dit comme ça. En revanche, lorsque cette sphère pénètre l'intérieur du cerveau, donc les makifim, d'accord, cette intelligence extérieure, qui est en réalité un cadeau d'Hachem. C'est comme si je te dis que Hachem, il se dévoile un peu plus à toi à ce moment-là de Sukkot, dans la Souka. D'accord ? C'est un cadeau qu'il te fait Hachem en réalité. Donc il te dit comme ça, lorsqu'elle pénètre l'intérieur du cerveau, déjà, l'esprit humain s'élève et le secret de la connaissance et du libre arbitre est révélé à l'homme. Ça veut dire que quand tu attrapes ce Ruach Makif, cette intelligence extérieure, okay, donc automatiquement tu vas t'élever à un certain niveau où justement c'est comme si je te dis tu rentres en fait dans une pièce du palais du roi que tu ne pouvais pas rentrer. C'est quoi cette pièce? C'est la pièce en réalité où tout est bien. C'est une pièce où maintenant tu comprends en réalité que même des choses qui te paraissaient tordues, en fait, elles ne sont pas tordues. Alors attention, attends. Attention, parce que si maintenant, d'accord, on comprend ça, tu dis, bon, alors tu sais quoi? Super, je fais ce que je veux. D'accord? Non. Parce que tant que, et personne, d'accord, c'est-à-dire Michel Bémet, je te souhaite, Bezrat Hachem, mais viens, on va dire la vérité, tant que ma chère, il n'est pas venu, laisse tomber, on ne va jamais réussir, d'accord? On va essayer, on ne va pas... Donc, tant que Mashiach ne s'est pas dévoilé, qu'est-ce qui va faire, justement, qui va te régler ta vie, d'accord? Savoir qu'est-ce que tu dois faire ou pas de faire? La halakha. Parce que si tu n'as pas la halakha, et bien, automatiquement, là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus de problème. Tu comprends? Tu fais ce que tu veux puisque tu dis, mais maintenant j'ai tout compris. En réalité, tout n'est que du bien. Puisque tu as accédé un petit peu à l'esprit divin. Tu comprends? Et que chez Hachem, tout est bien. Donc tu as cette halakha.
En pensant à ça, tu essayes d'annuler les mauvaises pensées.
Tu annules les mauvaises pensées, mais je vais t'expliquer une chose. Quand la vérité absolue, elle sera là devant nous, quand ma chère, il va se dévoiler, tu comprends bien que tu n'auras plus envie, par exemple, d'être Mechalel Shabbat, tu n'auras plus envie même de dire des gros mots. Ça te paraîtra un truc. Parce que pourquoi? Parce que tu as la vérité devant toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Là, maintenant, on n'a pas véritablement cette vérité devant nous. On a tous des instincts, on a tous du yeterara, on a tous des trucs. Tout le monde est comme ça. Tu comprends? Donc, cet esprit... Salut Myriam. Ça va? Donc, c'est la bande. Donc, Bémet, que si...
Donc, il n'y a que les bénis Israël qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï qui étaient dans cet esprit-là.
Oui et non.
Oui et non,
puisque tu vois bien qu'on est retombé très vite et que tu vois bien que même au moment où on recevait la Torah, on était déjà en train de vouloir... on faisait n'importe quoi. Donc, cette histoire, si tu veux, d'accord, je reprends, d'accord, on reprend. En revanche, lorsque cette sphère pénètre l'intérieur du cerveau, donc le Ruach HaMakif, d'accord, c'est comme si je te dis c'est un Ruach HaKodesh, c'est un esprit divin, ok, qui est là, qui entoure, d'accord. Donc quand il pénètre l'intérieur de l'esprit, du cerveau, l'esprit humain s'élève. Donc là maintenant, c'est comme si je te dis, tu n'es plus humain. Puisque c'est comme si je te dis, tu es rentré dans les secrets d'Hachem. Donc tu as quitté. Donc tu comprends que quand tu es rentré dans les secrets d'Hachem, tu n'as plus le libre arbitre, mais tu n'as même plus envie de faire des avérotes. Puisque c'est comme si je te dis, tu n'es que Neshama. Ah, bien sûr qu'on est loin de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que maintenant à Sukkot, tu as une capacité justement de prendre un peu de ça. Pourquoi c'est important de... J'arrive, Jen. Pourquoi c'est important de prendre tout ça? Parce que ça, c'est comme si je te dis, tu fais le plein pour l'année. Tu comprends? Le plein de Emouna, le plein de Simcha, le plein... Tu fais un plein pour l'année. Tu comprends? Oui, Jen.
Alors, le libre arbitre, il n'y en a pas, ok. Et quand tu te mets en colère, mais que tu sais que tu pars en vrille.
Ouais.
Alors, ok, alors c'est Hachem qui a voulu ça pour une situation après que tu dois réparer, il y a quelque chose, mais ça vient d'Hachem aussi.
Tout vient d'Hachem. Mais, regarde, si maintenant tu ne prends que ces paroles, tout vient d'Hachem. Tu dis, bon, alors, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire, je vais m'énerver, je vais plus travailler mes midotes. C'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Ça, c'est quand Bezrat Hachem, d'accord, quand Mashiach, il va venir, alors tu vas tout comprendre la photo. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi tu as eu ça? Tu vas tout comprendre. Tu comprends? Maintenant, tu as quelque chose qui te règle. C'est la halakha. Parce que si tu n'as pas la halakha, vu notre niveau, on part en vrille.
On devient des poisons.
Tu deviens dingue.
Et dans la halakha, tu dois pas te mettre en colère.
Et donc,
la chan. Pour le coup, la colère, Yael, c'est un vent de folie, vraiment.
Oui.
C'est-à-dire, ça, c'est même pas une chose à quoi tu réfléchis. Ouais. Je crois que tu n'as même pas le temps de réfléchir que ça vient et que tu pars vraiment en vrille.
La chan.
Mais une fois que tu t'es mise en colère comme ça.
Mais je ne suis pas tellement d'accord, parce que la colère, d'accord, si tu fais, plus tu vas faire un travail, d'accord, Nagui, tu te dis, cette année, je vais me concentrer là-dessus, sur le hignan de la colère, d'accord. La colère, Bémet, ne crois pas, elle vient doucement, doucement. Il faut que tu arrives à déceler à quel moment la colère, elle arrive. Elle commence par un tout petit truc, tu comprends. Des fois, tu peux avoir une colère aujourd'hui, mais en fait, la colère, elle a commencé il y a déjà 10 jours. Tu vois? Et ça, tac, 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 tac. D'accord? Donc, des fois, tu as une colère qui dure depuis l'enfance. Tu as compris? Sors de tout ça. On doit tous essayer de faire un travail, ok, pour essayer justement de déceler qu'est-ce qui fait qu'il y a une chose qui allume justement cette colère en moi.
Oui, mais ça, tu ne peux pas le faire ça, il faut aller en thérapie.
Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. T'as l'aide beau des doutes. Je te garantis que si tu prends les Etsot de Rabbeinu, d'accord, et Tsar Rishona, c'est l'aide beau des doutes, et que maman, tu t'ouvres. C'est quoi une thérapie? C'est tu viens devant quelqu'un, tu parles, et la personne, elle va un petit peu t'aiguiller.
Elle va te donner des
d'accord, thérapies. Ok. Mais Rabbeinu, tu ne vas pas dépendre toute ta vie d'un thérapeute quand même.
Non. Bien sûr que non, mais je pense qu'une thérapie de je sais pas, de 6 mois, de 1 an, ça peut te donner des clés.
T'as les clés ici.
Non, ça dépend. Il
n'y a pas besoin de psychanalyse.
Moi, je suis contre.
Ça dépend.
Moi, je suis contre.
Non, mais...
Tu peux dire, je vais, je prends quelques clés, et après, je dois avancer.
Oui, je suis d'accord.
Tu comprends? Mais Rabbeinu, il te donne toutes les clés. Rabbeinu, il te donne tout.
Et quand ça vient de ta toute petite enfance.
Justement, mais tout vient de la toute petite enfance.
Comment tu peux prendre conscience
à travers l'Aïd Bodedout. C'est quoi l'Aïd Bodedout? Tu sais quoi, Rabbeinu, il t'a tout donné. C'est ça la beauté du tzaddik. Le tzaddik, il est venu, il te dit, moi je vais te donner tous les types, comment j'en suis arrivé là. Il t'a tout donné, il faut juste que tu ouvres les livres qu'on t'a donnés. Tu comprends? À travers l'Aïd Bodedout, tu dis Hachem, aide-moi. Hachem fait. Et tu vas voir, Hachem, il va à chaque fois te donner encore. Profitez de Soukhot. Dans la Souka, ça va plus vite. D'accord? Puisqu'il y a justement le roi Hamakif. Donc, je répète, parce que ça, c'est Khashouk. Mais c'est sûr qu'il faut faire Hit Bodedout dans la Souka. C'est sûr que tu fais Khatsot dans la Souka. C'est sûr que tout prend une dimension.
Tout le monde avec toi. Moi, j'ai pas de Souka en plus.
Vous n'avez pas une Souka dans l'immeuble?
Ouais, non mais mon fils il a construit une mini souka chez vos parents.
Et ben voilà, tu vas dans la mini souka. Et ben voilà, c'est tout. Mais alors attends, regarde.
La souka qui est construite dans l'immeuble, elle est.
Et ben c'est la souka de l'immeuble. Ben, si c'est la souka d'immeuble. Alors, je voudrais vous raconter une histoire. Une fois, Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils sont partis chez quelqu'un, dans la souka. Une fois, Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils sont partis, je ne sais plus chez qui, ils ont été dans une souka. Et Rabbi Nathan, qui avait un œil de lynx, il dit à Rabbeinu, je crois que la souka n'est pas cachère. Sûrement qu'il avait raison, c'est évident. Rabbi Nachman, il lui dit, Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Il s'est tué pour faire la souka. Il a à savoir tout ce qu'il a dû prendre sur lui et faire, et le moment. Et c'est dur de faire une souka, Bémet, d'accord? Et toi, tu viens, tu lui casses sa souka. Ça veut dire, tu sais quoi, Nachon, peut-être que la souka que tu as en bas de ton immeuble, elle n'est pas parfaite, d'accord? Mais elle est fermée, ta souka. Rentre dans la souka. Rentre dans la souka et dis-toi, là, maintenant, d'accord? Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus les piscines, il n'y a plus... Je suis dans la souka. Je suis dans un monde complètement extérieur. Profitez. Si vous avez une souka, profitez de la souka. Ne vous dites pas, non mais écoute, elle est pas, c'est pas, les conditions optimales ne sont pas réunies. Bien sûr que ce n'est pas réuni. Jamais ça va être réuni. D'accord? Mais tu prends ce qu'il y a. Tu prends ce qu'il y a et tu le sublimes. Donc il te dit comme ça.
Balcon.
Non, 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 ça tu peux pas, bien sûr. Il faut que tu aies rien au-dessus. Mais si tu as une souka, voilà, il n'y a rien au-dessus, et puis il y a les quatre arbamotes, il y a tout ce qui est les tfanotes et tout ça, mais c'est d'air, tu rentres dedans et c'est ta souka. Ici, il te dit comme ça. Donc, il te dit comme ça. Donc, regarde. En revanche, donc, lorsque cette sphère pénètre l'intérieur du cerveau, l'esprit humain s'élève et le secret de la connaissance. Et du libre arbitre est révélé à l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le libre arbitre s'annule. Vous vous rappelez combien de fois je vous disais, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre. D'accord? Que en réalité, ça veut dire, ici, il vient, il te le dit, il n'y a pas le... Quand tu atteins cette connaissance, d'accord? Quand tu arrives à atteindre, justement, quand tu as ce roar makif, cette connaissance extérieure, elle rentre en toi. Automatiquement, il n'y a plus de libre arbitre, puisque tout est tov. Mais encore une fois, si tu arrives, Bémet, d'accord, à ce niveau, alors les avérot, les tavot, tout ça, ça ne te touche même plus, ça veut dire que ça n'existe plus. N'allez
ça,
pas.
Ça varie dans la journée.
Non, une fois que tu es arrivé à cette connaissance dont il te parle, Rabbeinu, c'est comme si je te dis, maintenant, tu es presque arrivé à un niveau d'ange. Tu es dans le Emet. Tu es complètement... Regarde, l'Anéchama... Regarde, l'Anéchama, avant de descendre sur Terre, d'accord, tout ce qu'on lui propose dans sa vie, on lui dit, voilà, ta vie, elle va être tout ça, dans les moindres détails, même ta colère. L'Anéchama, elle est que Emet. L'Anéchama, elle voit tout. Elle voit tout, le début, la fin, tout, 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 tout. Elle sait exactement pourquoi elle est venue ici. C'est quoi sa réparation? Donc elle te dit, ok, j'y vais. Tu comprends? Mais comme après, on a un corps, et que ce corps, il prend le dessus, c'est ça qui nous embrouille. Si maintenant, on arrive à un stade, d'accord, où on perçoit un peu plus, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, et eh bien, plus tu perçois Hachem, et plus automatiquement, tu te dégages, on va dire, d'accord? C'est-à-dire, ton corps, il a moins d'importance. Et donc, automatiquement, il n'y a plus ce libre arbitre de dire je fais ou je ne fais pas. Puisque tout ce que tu fais, ça ne sera que du bien. Puisque tu es complètement rentré dans la connaissance d'Hachem. Bon, mais ça, encore une fois, c'est, d'accord? C'est pas maintenant. Mais si Rabbeinu, il nous en parle, d'accord? Ça veut dire que, et il nous dit, c'est à Soukot et c'est dans la Souka. C'est-à-dire que tu peux avoir. Mais attention, ne te laisse pas attraper par quelqu'un qui va te dire « Non, mais c'est bon, je fume Shabbat, je m'habille pas de sniout, je mange taref, c'est bon, il n'y a plus de mal. » Non, Adoni.
Ben non.
Il y a la halakha. Yes. Là, si Bémet, tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu veux même plus « Bichlal », tu veux même plus faire partie de ce monde. Ça veut dire toutes les avérotes, tout ça, ça ne te touche plus. Tu comprends? Alors, il te dit comme ça, donc le libre arbitre s'annule. En effet, arrivé à ce niveau d'intelligence, l'homme sort des limites de ce qui est humain et s'élève au niveau de l'ange. Et de là arrive à la fin, d'accord, et de là arrive la fin du libre arbitre. Donc, tu comprends que c'est un niveau très, très, très élevé qui te parlera, Benou. C'est pas. Mais s'il t'en parle, c'est que tu dois lishov, c'est-à-dire que tu dois aspirer à ça. Tu dois aspirer à ça, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que pendant Soukot, d'accord, On doit demander à Hachem, Hachem, aide-moi tout au long de l'année à faire attention, d'accord, à ce que je vois. Parce que comment tu vas arriver à tout ça? Tu vas faire attention à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, ça influence, ça touche ta neshama. Ce que tu manges, ce que tu parles, ce que tu entends, ce que tu ressens, d'accord, tout ça, tout ce que tu vois, tu entends, tu sors de ta bouche, tu rentres dans ta bouche, tout ça, ça va influencer ton intérieur et tout ça va créer qui tu vas être. Si tu fais attention à ce que tu regardes, tu veux pas voir des choses pas belles. Tu veux pas voir des choses pas belles. Donc déjà, tu vas faire attention. Où tu vas?
Dans la rue, quoi.
Dans la rue. Bah, apprends à baisser. Il faut... Oui, bah, tu baisses tes yeux. Tu baisses. Attends, pourquoi? Tu n'as... Écoute.
Partout.
Je sais, j'ai vu.
Donc, tu as regardé?
Oui, j'ai regardé, bien sûr, j'ai vu. J'ai vu. Et il faut demander à Hachem. Il faut dire à Hachem, Ribono Shel Olam, fasse que ça ne m'atteigne pas. Parce que comment tu penses qu'aujourd'hui, une femme juive, elle en est arrivée à être en bretelles? Comment elle en est arrivée là, d'après toi? Parce qu'elle a vu. Et qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est pas si grave.
Mais tu dois l'aimer comme les autres.
Mais ça n'a rien à voir, ça, Michel. On t'a pas dit de pas aimer, on te dit, tu dois savoir faire le birour. Savoir, c'est quoi le birour? La distinction. Sinon, écoute une chose, si maintenant, d'accord, justement, tu n'as pas la halakha pour faire ta distinction, mais on va être comme des animaux. La halakha, les copines, je vous dis un truc, hein. Je vous le dis, ça nous empêche de devenir des animaux. Un homme, il a une pulsion. Ben, il veut sa femme. Voilà. Tu réfléchis pas? Tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas quand tu veux ta femme. C'est pas comme ça. Elle est permise ou elle est interdite? Tu comprends? La halakha, elle est là justement pour te régler. Tu veux manger? Attends.
Tout est une question de pulsion.
Tout est une question de pulsion. C'est tout des tas à vote. D'accord? Hein? Oui, non mais tout vient à partir de la pulsion, ça veut dire, est-ce que maintenant, l'être humain, s'il n'a pas... L'être humain, s'il n'a pas, justement, d'accord, cette Yirat Shamaim, s'il n'a pas cette crainte du ciel associée à la halakha aujourd'hui, d'accord, mais tu deviens un animal, tu veux manger, tu ne te poses plus de questions, je peux ou je ne peux pas? Comment je dois manger? D'accord? Tu fais l'amour. Comment je fais l'amour? Comme un animal ou comme un être humain? Comment je m'habille? Comme une Bat Israël ou comme un animal? C'est pareil, tu comprends ce que je veux te dire? C'est tout, ça veut dire comment maintenant justement je me règle. Bien évidemment que quand tu arrives à cette notion, d'accord, ou le makif là, ça veut dire cette intelligence extérieure, quand justement tu rentres un petit peu ça en toi, eh ben, tu comprends bien que tes pulsions, elles vont être beaucoup moins fortes. Et que les athlètes avec la Yirat Shamaim, ça veut dire la crainte du ciel que tu as, mais tu vas même pas vouloir. Ça va te dégoûter. Prends un homme, d'accord, qui a mamash rentré en lui cette Yirat Shamaim, qui a bémet vraiment assimilé, par exemple, le Inyan, de Nida. Mais, une femme, elle s'approche de lui, il va courir de l'autre côté tellement il va se sentir mal. Une personne qui a assimilé la cacheroute, rien qu'elle rentre dans un endroit, elle sent que c'est pas cachère, elle se sent pas bien, elle te dit, je ne peux pas rester ici.
C'est quand la Zéra, elle ne veut plus de nous.
Bidouk, tu comprends? Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu fais mes etzot, si tu prends mes conseils et tu fais ce que je te dis, à la fin, c'est la Zéra qui voudra plus de toi. Même tu veux la faire la Vera, non, il n'y aura pas.
C'est beau ça.
Tu comprends? Mais c'est pas le vaille, ça c'est Bémet Nachon.
Oui, bien sûr.
Ça, je te le dis, ça existe. Parce que quand tu parles avec Hachem et que tu fais il beau des doutes et que tu demandes et que tu supplies, un jour, la Vera, où tu seras là pour que tu es presque en train de faire la Vera, elle ne veut plus de toi.
Non, elle n'aura pas même goût.
Hein? Elle sera écœurante. Parce que la Vera, elle a un bon goût. D'accord? Oui, mais Rabbeinu, il t'emmène à un stade où la Avera, elle te dégoûte. Elle a un goût de dégoûtant. C'est-à-dire, même que tu l'as fait, tu ne l'as pas kiffé.
Ouais.
Tu comprends? C'est ça, Rabbeinu. Et il n'y a que Rabbeinu qui t'emmène ici. Mais encore une fois, attention les filles, tout ce qu'on se dit, parce que c'est rachouf, je ne veux pas craser chaleur, mais on sort d'ici, on se dit, bon, ben, de toute façon, maintenant, c'est bon, il n'y a plus de... Le libre-arbitre, il n'existe pas. Tout c'est HM, tout est bon. Rabbeinu, il a dit, il a répété en long, en large, en travers. Tu bouges pas, d'accord, des arba amot de la halakha. C'est-à-dire, tout ce que je te dis, il faut que tu aies la halakha. S'il n'y a pas la halakha, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Parce que tu vas te perdre. Tu vas te perdre où? Dans les ta'avot. Sache une chose, c'est que c'est vrai que quand on entend, d'accord, la chassidoute, elle est venue pour nous enlever un poids du cœur. Quel poids? La culpabilité. Ça, c'est la chassidoute en général. Et Rabbeinu, mamash, spécialiste. D'accord? Donc, il est venu, il t'a enlevé la culpabilité, il t'a tout enlevé. Mais chas v'shalom, si, d'accord, t'as pas la halakha avec toi, tu peux devenir comme un animal. Parce que justement, tu te culpabilises même plus. Tu dis non, mais c'est bon, c'est pas grave. HM, de toute façon, il me pardonne. De toutes les façons, HM, de toute façon, tout ce que je fais, c'est que du bien. Non, non.
Non, non, mais il dit d'étudier tous les jours le choudra.
Bidouk, la halakha, elle est primordiale. D'accord?
Oui, mais attention.
Si t'as bien,
non, non, non.
Ok,
on est.
Non,
je suis pas d'accord avec toi.
Non.
Parce qu'en fait, quand il n'y a que de la halakha, c'est pas bon non plus. C'est, je lisais un truc sur la destruction du temple, qu'en fait, ça a été détruit parce que c'était que...
C'est que de la rigueur. C'est que de la rigueur.
Et donc, quand tu n'as que de la halakha, c'est pas bon non plus.
C'est déjà la
halakha.
Par rapport à ce que tu as déjà
dit. Si tu n'as que ça,
tu n'as pas toutes les
halakha. Oui, mais bon, déjà,
il faut faire un
peu. Déjà, il faut être
payé à faire.
Bien sûr, bien sûr. Attends, Jen, tu sais qu'est-ce qui est compliqué de la halakha? Ce qui est compliqué dans la halakha, c'est que ce qui est dur dans la halakha, c'est qu'elle t'empêche souvent de te comporter comme t'en as envie. C'est quoi comme t'en as envie? Comme bon te semble. Ah, je ne te parle pas de la khumra, moi. Non, attention, attention, attention. Là, moi, je ne te parle pas du tout de la khumra. La khumra, Rabbeinu, d'ailleurs, était contre. Parce que ça peut t'emmener à la rasra. Non, la halakha, c'est 40 deniers.
Qui l'a dit ça?
C'est la halakha.
Oui.
À moins que... 40 deniers, pas 100 deniers. Non, non, non. Regarde. Attends. Je vois que le Beth Yaakov, il a fait des... Alison, je vois que le Beth Yaakov, il a déjà fait son travail. Attends, regarde. Viens, on essaye. D'abord, tu peux mettre des chaussettes. Pas obligé de mettre des collants jusqu'en haut. D'accord? Bon. C'est, la halakha, c'est 40 deniers. C'est l'épaisseur du collant.
Attends.
Non, vraiment, 40 deniers, tu les sens pas. Attends, deux secondes, les filles, je vous dis quelque chose.
Non, mais là, tu vas fort, là.
C'est pas moi, c'est Alison. Écoute, ce que tu peux faire déjà, si tu peux pas mettre des collants, tu peux dire, je mets des robes longues et je mets juste, tu sais, une petite chaussette, une petite soquette. Voilà, tu vois, t'as déjà couvert, ça veut dire ta cheville. Tu comprends? En coton, tu peux faire ça déjà pour commencer. Mais encore une fois, c'est pas la peine de rentrer dans des plus et des plus. Là, la
femme. Ça veut dire que la femme qui est la tête couverte, sa loi, sa mifo, et qui est avec des chaussures peut-être couvertes,
Je sais pas si elle est enfin la halakha, cette dame. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que j'en vois plein en gamme de ma fille, ils sont super dati. Et il y en a qui sont datia comme les autres, elles ont des tongs. Mm-hmm. Ou à l'école de l'autre école de l'autre fille de Betty Alcom. Voilà, c'est un autre stade, mais.
Regarde.
On te regarde en fonction de ces deniers.
Moi, je vais te dire quelque chose. Non, mamie, la Torah, elle a été donnée, la halakha, elle a été donnée, que tu sois à Paris, en Afrique. Oui, mais je vais te dire quelque chose. Attends. Viens, je vais te dire quelque chose. Tu sais que Sarah Imenu et Rachel, elles étaient en plein désert. Deux secondes. Eh, Sacha, Sarah Imenu, pas seulement qu'on voyait pas ses pieds, on voyait pas son visage. Elles étaient couvertes complètement de la tête aux pieds, on voyait rien. Attends. Et moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose, d'accord? Plus on va, si vous remarquez bien, avec le temps qui passe, plus on va, plus on se déshabille. On est toutes d'accord. Sachez une chose, si aujourd'hui, on arrive encore pour certaines, d'accord, à encore garder un petit peu quelques morceaux de tissu sur notre peau, c'est par le mérite et c'est l'héritage qu'on a reçu de nos imaot. Quel héritage elles nous ont laissé? Que justement, avec 40 degrés, dans le désert, elles allaient crever, d'accord? Eh bien, elles ont serré les lèvres et elles ont pris sur elles et elles étaient habillées tsniout. Si elles n'avaient pas fait ce Messirut Nefesh, comme Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh pour l'Achnasat Ohrim, d'accord? Et que tous nos Tzadikim, ils ont fait le Messirut Nefesh. Si elles n'avaient pas fait ce Messirut Nefesh, je vous le promets, aujourd'hui, il n'y a pas une femme, aussi religieuse soit-elle, qui aurait pu supporter un tissu sur elle. Elle n'aurait pas pu. C'est grâce à ce Messirut Nefesh. Alors aujourd'hui aussi, parce qu'on avance dans le temps. Vous aussi, on est toutes des Sarah, des Rachel, des Rivka, on est toutes, d'accord, des Imaot du futur. Si on veut encore pouvoir donner la possibilité à nos enfants de pouvoir être habillés dans 10 ans, dans 20 ans, dans j'en sais rien quoi, eh bien aujourd'hui, malgré les conditions climatiques, on prend sur nous. Tout ce que tu prends aujourd'hui sur toi, c'est un chesed que tu fais pour tout le Ham Israël. Il suffit d'une femme, qui dit « Moi, je prends sur moi, c'est dur, mais je prends sur moi. » Cette femme-là, on est tous à Révim Zélazé, on est tous liés les uns les autres. Cette femme-là, elle donne, ça veut dire c'est un héritage pour le Ham Israël. Et je veux vous raconter une histoire, puisqu'on a parlé du Beth Yaakov. Qui a créé le Beth Yaakov? Elle s'appelle Sarah Schnerer. C'était à la base Sarah Schnerer, d'accord, donc c'était avant la guerre. C'était une petite couturière, une femme, tout ce qu'il y a de plus simple. C'était une femme, elle était couturière. Et donc, les jeunes femmes venaient au fur et à mesure du temps, et plus ça allait, puis elle lui disait, ouvre-moi un petit peu ici. Ça veut dire, avant, les femmes, elles allaient, vous voyez les photos, même des goyotes, elles allaient bien fermer, tout comme il faut. Elle commençait à lui dire, ouvre-moi un petit peu vers le col, remonte un peu la jupe, un peu plus cintrée. Et à un moment, elle a dit, mais non, attends, je ne peux pas faire une chose pareille, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, Sarah Schnerer a décidé, d'accord, d'ouvrir des classes où on allait enseigner la Torah, les halakhot aux femmes. C'est comme ça que ça a commencé, d'accord. Le premier Beth Yaakov a eu lieu, ça veut dire il a existé avant la guerre, c'était une petite classe pour jeunes filles. Et Baruch HaShem, la transmission, elle s'est faite aujourd'hui, le Rechet, ça veut dire le Beth Yaakov, c'est Bémet, c'est les meilleures écoles, d'accord, les meilleures, où on forme les jeunes filles, les petites jeunes filles juives, c'est dans le monde entier. Maintenant, ça c'est pour l'histoire. Mais je voudrais vous raconter une histoire moins connue sur Sarah Schnerer. Au moment où il y a eu la guerre, donc après elle est morte, c'est-à-dire dans les Vracha, et au moment où il y a eu la guerre, Donc on sait tous qu'on prenait, donc on prenait les hommes, on leur faisait casser, d'accord, on leur faisait construire des chemins de fer, des machins et tout ça. Et à un moment donné, il y avait un cimetière et ils devaient donc malheureusement casser les tombes pour faire passer un chemin de fer. Et à un moment donné, il y a eu donc un homme, il essayait, malheureusement, il cassait, et rien à faire, ça restait. C'était impossible. Bien évidemment, on sait comment ils étaient affreux, il s'est fait battre, il s'est fait esquinter, parce qu'il n'arrivait pas, il n'en pouvait plus. Le soir, il a dit, je suis obligé d'aller voir, d'accord, à qui appartient cette tombe. C'est pas possible, il y a quelque chose. Il a été, et qu'est-ce qu'il a découvert? Que c'était la tombe de Sarah Schneider. Cette femme qui a vraiment fait un Messirut Nefesh, parce que vous comprenez bien que de couturière, elle a abandonné son travail. Elle a abandonné son travail, elle a été prête à perdre sa parnassa, d'accord ? Elle s'est sûrement mise à dos beaucoup de personnes pour justement prendre un groupuscule de femmes et commencer à leur enseigner la halakha, la tzniut, c'est quoi la Yirat Shamayim et tout ça. Cette femme-là, d'accord, ça veut dire, elle a... Ça, quand on a essayé de casser sa tombe, impossible de casser la tombe. Pourtant, c'était, j'imagine, la même pierre que les autres tombes. Pour vous dire à quel point, d'accord, que quand on fait un Messirut Nefesh, ça veut dire jusqu'à maintenant, si justement les femmes juives, les jeunes filles juives, elles tiennent encore la tzniout, c'est grâce à cette femme-là. Cette femme qui a fait Messirut Nefesh, c'est pas Stam. Donc aujourd'hui encore, malgré la difficulté pour une femme, si c'est de s'habiller de sa noix, et dans la tzniout, les filles, c'est pas que l'habillement, vous savez, c'est vrai que c'est pas évident, et je veux vous dire une chose, c'est vrai que pour la femme, la tzniout, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé en nous un besoin de plaire. C'est pas Stam. Ça veut dire que c'est Hachem qui a créé ça. Ce besoin qu'une femme, elle a de plaire. Prends une femme, elle a besoin toujours de s'arranger, de faire... C'est comme ça. Elle ne peut pas sortir n'importe comment. Elle a besoin. C'est un besoin. Donc, c'est Hachem lui-même qui nous a créé ce besoin. Donc, on ne peut pas aller contre, puisque c'est Hachem. Mais justement, la halakha, elle est là, d'accord, pour te cadrer. C'est-à-dire, tu veux plaire, bien sûr que tu dois plaire. Mais à qui tu dois plaire? Quand tu dois plaire? Comment tu vas plaire? Tu comprends? L'influence extérieure, elle veut nous faire passer comme message? Tu ne peux plaire qu'en devenant un jardin public. Ça veut dire en montrant tes seins, en montrant tes jambes, en mettant des choses transparentes, d'accord? En étant donc très, très voyante. Mais être voyante, c'est le contraire du tzniout. La plus belle femme à l'époque... C'était la femme qui était de sa noix. Regardez nos textes. On parle de la beauté de Sarah. Qu'est-ce qui a marqué? Abraham Avinu, il n'avait jamais vu son visage. Juste au moment de quand ils sont passés là, il y avait la petite source, et qu'il a vu, peut-être par erreur, j'en sais rien, d'accord? Et que il lui a dit, attends, je vais te cacher parce que j'ai peur qu'ils vont te... Jusqu'à présent, il n'avait pas de problème, Abraham Avinu. Et ça, c'était les plus belles femmes. Donc, tout est une question de société et tout est une question d'influence extérieure. Le juif, il doit aller à contresens. Croire, d'accord, te laisser attraper par cette pensée que plus tu vas être dénudé, plus tu deviens bémette un jardin public. C'est-à-dire, tu sais quoi, tout est ouvert. N'importe qui peut voir qu'est-ce que je suis.
Plus tu vas.
Comment?
C'est aussi de la gavin.
De quoi?
Pouvoir faire le jardin public.
Tu sais, des fois, c'est même pas réfléchi. Hein. Des fois, je crois que...
Si, quand tu t'apprêtes très, très bien, etc., tu le fais pas. Tu sors de chez toi, c'est pour que les gens trouvent que t'es belle.
Non, tu le fais pour toi.
C'est aussi ambivalent, c'est pour toi et pour l'extérieur.
Bon, aussi, Sacha, elle a dit aussi une autre chose. C'est souvent aussi parce qu'on a besoin d'amour et c'est aussi peut-être parce qu'on nous a pas assez dit notre papa, pas notre maman, notre papa. Il ne nous a pas assez dit quand on était petite qu'on était belle. Donc, tu as besoin, tu vois, de... Tu as besoin. Donc, bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, tout ça pour dire que Bémette, que si maintenant, d'accord, tu réfléchis bien, chaque mitzvah, elle a, si tu veux, sa difficulté. Mais dis-toi que si aujourd'hui tu fais Messirut Nefesh, d'accord, eh ben, les générations à venir, elles vont pouvoir récolter ton Messirut Nefesh. De la même manière que nos avot et nos imaot, elles ont fait Messirut Nefesh, ils ont fait des grands Messirut Nefesh. Aujourd'hui, nous, on peut tenir, on a cet Avodat Hashem, cet Yirat Shamayim, que grâce à ça, que grâce justement à tout ce Messirut Nefesh qu'ils ont fait.
Il faut galérer pour que la mitzvah vaille quelque chose.
Non. Tu galères à partir du moment justement où tu ne comprends pas le bien que ça te fait. Tu galères parce que justement tu n'as pas rentré ça en toi. Au contraire, une mitzvah, il faut qu'elle soit légère comme un diamant. Ça veut dire que tu dois aimer ta mitzvah. Tu dois comprendre que c'est un mérite qu'on t'a donné. C'est un mérite que tu es née juive. Regarde aujourd'hui les goïms. Ils veulent se convertir. Tu dirais, mais attends, mais parce qu'ils comprennent que c'est un mérite qu'on a eu, qu'on est né juif. C'est un mérite qu'Hachem, il te donne, que tu peux faire les mitzvot. Quand une femme, elle s'habite sa noix, c'est un cadeau, c'est un mérite qu'on lui fait. Regarde tout ce qui se passe autour de toi, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Quand tu manges kasher, c'est un mérite. Quand tu fais une bracha, c'est un mérite. Quand tu fais ton shabbat, c'est un mérite qu'on te donne. Qui tu es pour faire ça? Tu n'es que poussière et pourtant, parce que tu es la fille d'Hachem, tu es la fille du roi. Donc non, chaque mitzvah que tu fais, d'accord, au contraire, tu dois le prendre comme un mérite. Des fois, oui, c'est un peu difficile. Parce que bien évidemment, le Yetzer Hara, il est là, il se mêle automatiquement. Tu comprends? Mais justement, si tu demandes à Hachem, tu dis Hachem, donne-moi ce cadeau de prendre cette mitzvah, de la prendre vraiment avec amour. De le faire véritablement, ça veut dire de le ressentir, de ressentir que c'est un mérite que tu me donnes, c'est un cadeau. Tu demandes ça à Hachem. Et ça vient doucement, doucement. Tu comprends? Au début, oui, sûrement que c'est difficile. Parce que je connais pas un Yetzer Hara, d'accord? Parce que, il a plusieurs visages. Je connais pas un Yetzer Hara qui va dire, allez, vas-y, habille-toi de tsniout, allez, vas-y, fais ça. Au contraire. Il fait très chaud, comme tu as dit. C'est difficile. Il n'y a pas de restaurant cachère. Mais même, c'est difficile. Moi, je te dis la vérité. Venir manger à Tel Aviv, c'est dur. C'est très dur. Chaque fois, je me dis, mais où je peux prendre un truc? C'est pas facile, tu vois. Mais je me dis après, ben, Hachem, quand même, tu vois. Je suis pas tombée. Et ainsi de suite pour chaque chose. Alors, on termine. Il te dit comme ça. C'est là la difficulté de comprendre la science du paradoxe, de la connaissance et du libre arbitre qui fournit à ce dernier, d'accord, l'essentiel de sa force. Ça veut dire, aujourd'hui, nous, on est dans un monde, justement, où malgré que tu veuilles ou pas, on a cette notion du libre arbitre. Et malgré tout, si tu veux, on a cette notion que quand tu avais la possibilité de faire une avéra et que tu as la sensation que tu as choisi et que tu as dit non, j'ai pas fait. Eh bien, ça te remplit. Et ça t'amène une véritable simcha. La vraie simcha, d'accord, elle est dans la Avodat Hashem. Celui qui va chercher la simcha dans des dérivés ou j'en sais rien quoi, c'est pas de la vraie simcha. La vraie simcha, elle se retrouve justement quand tu as une possibilité. Je fais une avera ou je reste à Hashem. Et quand tu as réussi justement, d'accord, avec ce libre arbitre de dire non, maintenant moi je choisis Bémet, d'accord, de faire la mitzvah ou de m'éloigner du mal, ça t'amène de la vraie simcha. Donc on voit ici que Bémet Soukot, c'est un moment où on va recevoir justement, d'accord, ce roi Hamakif, ça veut dire cette intelligence. Il va y avoir dans la soukha une intelligence extérieure qui est une intelligence divine. Cette intelligence, tu ne peux pas. C'est impossible de l'attraper, stam comme ça, même si tu lis 10 fois tous les livres. À Soukhot, il y a un condensé d'Hachem dans ta soukha. C'est le moment de faire le plein. N'ayez pas honte, je vous en supplie, celles qui n'ont pas de soukha, demandez à vos copines, dites-lui, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux rentrer dans ta soukha? Est-ce que je veux... Faites-y de Bodedout, faites-y de Mounaklali, essayez Bémet, celles qui ont la possibilité de faire Khatsot, celles qui ont la possibilité de faire Sikhat Raverim, invitez du monde, ça veut dire tout ce qu'on peut faire dans la soukha, on le fait.
Tous les jours.
Tous les jours, bien sûr. Voilà, Sacha, elle a une grande souka. Alors, magnifique. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez vous donner vos adresses dans le groupe de Tel Aviv et vous avez qu'à vous prêter les soukottes. Celles qui sont sur Yerushalayim, vous êtes invitées dans ma souka, mais avec un grand plaisir, d'accord ? Elle est immense. Donc vraiment, chacun y trouvera sa place. Tout le monde est invité. Une chose aussi que je voulais vous dire, les copines, le troisième jour de Soukhot, c'est la Hiloula de Rabbi Nachman, si Dieu veut. On a l'habitude de faire la Hiloula au Hachem chaque année pour mixte, ça veut dire hommes et femmes, bien sûr, les hommes dans la Soukha, les femmes de l'autre côté. Bon, cette année, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Nous, on la maintient. D'accord ? On a fait la Hiloula, Bezrat Hashem. On ne sait pas encore comment ça va se passer, comment on va faire pour que ça soit fait dans les règles et tout ça. Donc, vous allez être mis au courant dans les groupes, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, où que vous soyez dans le monde, même pour ceux qui vont malheureusement quitter Eretz Israël et qui vont partir en vacances pour Soukhot, Bechol Ofen, où que vous soyez dans le monde... La Grèce, c'est une destination très à la mode. Où que vous soyez dans le monde, le jour de l'Aïloula, n'oubliez pas, allumez le nerf de Rabbeinu, faites Itbodedout. Si vous pouvez lire un texte du Likutei Moharan, attachez-vous au tzaddik, demandez-lui, parce que ce jour-là, le tzaddik, il fait des cadeaux. Ce jour-là, le tzaddik, il est là très 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 présent. Donc, demandez, ça veut dire... Tout ce que vous avez besoin à Rabbeinu, le jour de l'Aïloula, Bezrat Hashem, le Rabbeinu, ça dit qu'il est là, il ne veut que donner, si Dieu veut. C'est le troisième jour, je crois que c'est lundi, je crois. On vous suivrez, Bezrat Hashem. À partir du soir, la veille et toute la journée. Exactement. Ceux qui n'ont pas, je crois que c'est, je ne sais plus, dimanche, lundi. Il se peut... Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de Seger Bezrat Hashem, parce que le virus n'existe plus, au Hashem. Donc... Bezrat Hashem Idbara, je ne sais plus, je crois que c'est dimanche, lundi, quelque chose comme ça, je n'ai pas le jour. Mais en tout cas, même si Chas V'Shalom, vous êtes loin... Faites une petite séouda, faites quelque chose, parlez de Rabbi Nachman dans vos soukottes, là où vous êtes, Bezrat Hashem Idbarach, si Dieu veut. Chag Sameach.